direction orientale. J'ai réfuté totalement cette
question. Moi, c'est l'île de Combati, au Castanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'écouter Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Le deuxième Airbus A320 de Congo Airways reste bloqué à l'aéroport de Dublin sur une décision de la haute cour irlandaise saisie par la société américaine Menenco LLC et deux citoyens américains, John Dormer Tyson et Ilunga Jean Mukendi. Les avocats de la partie américaine exigent à l'État congolais de payer à leur client une dette de 10 millions d'euros. Certains observateurs estiment que cette affaire devra permettre à l'État congolais d'accélérer le paiement de ses dettes publiques vis-à-vis des tiers pour éviter ce genre de situation dans l'avenir. Qu'en pensez-vous? PA@radiocapi.net, notre courriel par lequel vous pouvez commenter ce sujet. Vous pouvez également intervenir en direct au 081 890 63 15. La mise en onde de ce programme est assurée par Jean-Noël Mokondo. Pierrot et la Mégie est à la réalisation de cette émission présentée et coordonnée par J.R. Nguyenbo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyenbo.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Eddy de Lubumbashi. Eddy, bonjour.
Pierre.
Vous avez la parole, Eddy. Comment commentez-vous cette actualité?
Merci beaucoup, M. Gilles. M. Gilles, dans cette, nous devons savoir que notre gouvernement a commis une faute grave. Je me pose la question, c'est par négligence ou bien par un. Je vais m'expliquer. Nous savons que notre pays a été très mal gouverné par le passé. Je me rappelle en 2009, M. Gilles, on avait saisi les comptes de la GICAMIN par un fonds vautour qui réclamait quelque chose pour parce que le gouvernement antérieur n'avait pas payé les frais pour la construction du barrage de Mobimbongo. Mais heureusement, on n'avait pas trouvé gain de cause parce qu'on avait là attaqué un compte de la GICAMIN et non du gouvernement central. La GICAMIN fait son argent. Mais cette fois-ci, le gouvernement a acheté l'avion en mettant la signature du gouvernement pour laquelle on a loué l'avion. Avant cela, la même entreprise américaine a tenté de faire saisir le bâtiment de la GICAMIN en Belgique. Mais ils ont été retoqués. On a considéré cette procédure de saisine comme irrégulière parce que c'est le gouvernement qui leur doit et non pas la GICAMIN. Mais après cela, M. Gilles, c'est passé d'ailleurs sur vos. Il y a un opérateur économique congolais qui a fait la même procédure et qui a pu trouver quelque chose en Belgique qui est à la GICAMIN qui transportait les travailleurs de Kipushi à Lubumbashi. Et là, il a trouvé quelque chose. Pourquoi? Parce que lui, la GICAMIN, mais non, dans notre pays, parce que nous savons que nous avons des dettes, le gouvernement doit être un peu. Il doit mettre un peu dans la façon dont il est en train de gérer notre pays. Puisque nous avons des dettes partout, vous savez vous-même, dans notre pays, rappelez-vous en 1993, vous avez donné les dons à Béja à l'époque, les coupures de 5 millions aux militaires. Ils sont allés en ville, les opérateurs économiques ont refusé de ces coupures. Qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? Pillage. C'était le deuxième pillage de 1993. Toutes ces victimes-là, nous leur devons de l'argent. Pas différent de ce qui est arrivé à Chikapa, quand les militaires sont allés prendre les diamants et mettre la main sur les engins à Chikapa. C'était les militaires de notre pays. Donc nous devons beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Mais dans la manière dont nous devons gérer notre pays, nous devons tenir compte du fait que au passé, le pays a été très mal géré. Moi, je vous dis la vérité, M. Gère, que si on avait retrouvé sur le chèque qui a payé l'avion de l'administrateur de Congo Airways, cet avion n'allait pas être cloué. On a retrouvé le trace du gouvernement. C'est alors qu'on a mis la main. Qu'est-ce qui est là, la signature de l'administration ou bien d'un travailleur, peut-être l'administration financière de Congo Airways? Si c'était le cas, on allait pas sur l'avion. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Que le gouvernement puisse tenir compte du fait que par le passé, le pays a été très mal géré.
Voilà.
Et nous avons...
Merci
beaucoup. Et être stratège dans la manière de gérer le pays.
Voilà, merci Eddy. Pour vous, cette saisine n'est pas la première. Vous avez évoqué celle que la République a connue en 2009, qui, selon vous, était quand même irrégulière, dans la mesure où, au lieu de saisir un bien de l'État congolais, disons, c'est ceux qui étaient concernés, en fait, ils se sont pris au compte de la Gécamines, ce qui était irrégulière. Alors, pour le deuxième cas, pour vous, vous estimez que le fait que ce soit l'avion de l'État, c'est tout à fait normal que ces citoyens américains aient aussi ont droit à réclamer leur dû. Et il y a beaucoup de gens...
monsieur Gilles,
oui.
C'est pas ça. J'ai dit l'avion à Congo Airways, sur la signature qui achetait l'avion, on devait trouver là-bas la signature de l'ADG de Congo Airways. Là, on n'allait pas mettre... Mais puisque le gouvernement a commis l'imprudence de mettre la main, de mettre la signature du ministre des Finances, c'est alors qu'on a coué l'avion.
Bon voilà, je ne sais pas.
Si on avait trouvé la signature de l'ADG, on n'allait pas couer.
Mais il ne faut pas non plus oublier que Congo Airways, ce n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise de l'État. Voilà, merci beaucoup.
Elle a un statut particulier.
Tout à fait.
Merci. C'est un peu comme la Gécamines, c'est une entreprise.
Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Maître Rigen, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs.
Voilà, vous l'avez dit dans votre message que vous nous avez envoyé, que cette thématique vaut vraiment son pesant d'or pour qu'elle soit débattue au cours de cette genre de tribune. Alors, quel est le commentaire que vous avez pratiquement par rapport à cette affaire?
Merci beaucoup, M. Junior. J'aimerais juste avant tout dire il n'est pas de plus grand danger pour une cause que d'y laisser subsister une lacune dont on ressent en maint égard qu'elle doit impérativement être comblée. Là, c'est pour dire quoi, M. Junior? Le tas congolais est en train d'exceller dans ses vieilles habitudes. J'ai salué d'ailleurs l'intervention du précédent M. Eddy depuis... Depuis Lubumbashi, pour avoir quelques aspects fragmentaires de l'histoire. Dans le cas, point de besoin que l'on tarabiscote ou soit que l'on fasse un peu des analyses outrancières. Ça ne vaut plus parce que le temps qu'on est en train déjà de subir une mesure. Et à notre avis, cette mesure répond aux règles du bon droit, soit aux règles jugées, parce qu'elle repose sur une créance liquide et exigible. Mais encore, pour ceux qui disent que Congo Airways n'est pas une société de l'État congolais, ou soit en train peut-être de développer une opinion autre que nous, M. Gilles, ceux-là doivent se défaire. Parce que Congo Airways, c'est une société de l'État congolais. Et partant, donc, l'État congolais peut subir les effets au revers de tous ces actes dont il n'a pas honoré. Dans le cas d'espèce, le sujet américain a bel et bien saisi la justice irlandaise. Et cette justice, nous ne pouvons pas présumer en elle une sottise ou soit une étourderie de saisir injustement l'avion congolais. Donc, elle a s'assuré sur le mérite de la demande de sujets américains et a estimé que la demande était fondée. Voilà. Elle a ordonné cette saisie. Donc, moi, je prierai aux autorités congolaises, devrais-je dire, de ne pas développer l'opinion traitée, mais plutôt de chercher un arrangement concerté. Donc, un modus vivendi.
Oui, mais il y a le gouvernement qui a dépêché rapidement des experts. Il y a une délégation qui est conduite par le ministre de la Justice elle-même pour tirer au clair cette affaire.
Bien sûr, mais c'est de cette occasion que les personnes envoyées doivent chercher comment exploiter la question sans parti pris, c'est-à-dire aborder froidement le sujet américain et parler de tout ce qu'il y a. Comme c'est une affaire civile, mais ce genre-là peuvent aussi arracher l'accord de sujet américain et aussi faire lever la saisie. Mais ce qui est pire, c'est quoi, M. J.R.? Les autorités sont en train déjà de condamner cette mesure. Elles n'accueillent pas la mesure prise par la justice irlandaise et la juge en juste, comme qu'il y aurait des risques procédurales. Mais en notre humble avis, nous pensons qu'il n'y a pas de risque procédural, parce que l'État congolais est passé aux aveux et a reconnu que la dette dont question existe bel et bien.
Voilà, merci beaucoup, Maître Rigan. On va prendre Maître Sonville, qui est à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur J.R. Bonjour à tous les milliers d'auditeurs de la radio Capir, de la radio Pacifique.
Vous avez suivi
Allez-y. Par rapport à la thématique, M. J.R., je dirais que cela dénote le degré d'insolvabilité de notre État congolais, l'insolvabilité de notre gouvernement. Puisque, M. J.R., je ne peux pas comprendre. D'après le principe de la continuité de l'administration, on hérite le passif et l'actif. Un jour, j'avais suivi le ministre, il y a un monsieur qui était passé sur votre chaîne, soi-disant que cette dette date du temps de Mobutu. Mais lorsqu'on hérite le passif, et lorsqu'on hérite, on prend le pouvoir, on hérite le passif et l'actif. Le gouvernement est dans l'obligation de s'acquitter, d'honorer à ses créances pour essayer un peu d'honorer l'image de la République démocratique du Congo. Vous savez que M. Gilles, l'histoire pareille, jette l'opprobre à notre République. Il ne suffit pas de passer aux aveux pour reconnaître la dette, mais l'essentiel idéal, c'est de payer, d'honorer cette dette-là. Cela va honorer la République démocratique du Congo. Vous comprenez avec moi, M. Gilles, ça ce n'est que le début, c'est un final fort. Il y aura des saisies et des saisies. Il n'y a pas longtemps qu'on a voulu même saisir l'immeuble de la Jacamine à Bruxelles, puisque la Jacamine a aussi une dette. Heureusement, il y a eu un arrangement à l'amiable. Hormis cela, M. J.R., nos athlètes sont partis à la République congolaise. On leur a interdit l'accès sur le site suite au non-paiement de $220,000. Est-ce que vous comprendrez un État comme la RDC peut manquer $220,000? Ça, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Nous ne parlons même pas de la dette intérieure. Combien l'État congolais, le gouvernement congolais, doit aux provinces en ce qui concerne la dette intérieure. Vous savez, M. J.R., nos diplomates qui sont à l'extérieur, qui sont accrédités auprès des pays amis, ils sont des fois délogés, déguerpis, d'une manière là inhumaine, puisque le gouvernement ne parvient pas à honorer aux frais des loyers. Mais je ne comprends absolument rien. Lorsqu'on dit qu'on gouverne, quoi? Pour obtenir la main levée de cette saisie, il faut payer. Il faut payer, M. J.R. Si aujourd'hui nous scrutons l'histoire de la RDC, la manière dont on construit même les aéroports portuaires et tout ça, c'est toujours pas de dette de BAD, la Banque africaine de développement. Il faut que le peuple congolais puisse payer les copains. À ce moment-là, il y aura restitution. Mais où est-ce que nous allons avec ce pays? Au moment où on engage des frais colossaux pour dans des futilités. Je ne comprends absolument rien. Monsieur J.R., avec M. Laurent Kabila, quand il est parti, paix à son âme, il n'a laissé aucune
dette. Mettre son bill sous réserve d'experts, de l'interprétation des experts. Aujourd'hui, cette affaire, selon une certaine information, ne date pas de cette république, c'est depuis le Zaïre. Donc, je crois que quelque part, il faudrait que les gens se fassent quand même une idée très claire par rapport à cette raison pour laquelle nos experts sont partis pour tirer au clair cette affaire. Nous avons tous suivi l'actualité. Il y a le ministre des médias qui est revenu sur cette affaire pour dire que ça date de l'époque du Zaïre.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ça date de l'époque du Zaïre. Lorsqu'on prend le pouvoir, on hérite ses passions et l'actif. Cette dette n'est pas sous la tête de M. Mobutu. Le Zaïre, c'est sa croix, la République démocratique du Congo, il y a une possibilité d'administration. Alors, lorsqu'on prend un pouvoir, il faut savoir que nous devons autant à l'extérieur, nous devons autant à tel pays, ça doit être bien planifié. Nous sommes dans l'obligation de l'honneur, puisque c'est notre gouvernement, notre République démocratique du Congo, qui a contracté cette dette-là.
Voilà,
Sommes dans l'obligation de payer.
Donc vous partagez.
C'est nous qui avons contracté cette dette, c'est nous qui sommes Zaïrois en son temps, en Congolais aujourd'hui, que nous devons payer cette dette. Et le gouvernement a l'obligation de payer cette dette pour essayer un peu de gagner aussi sa crédibilité auprès d'autres créanciers. Parce qu'aujourd'hui, avec cette image-là, vous voyez que ça termine l'image.
Voilà,
le Congo.
Mais
est-ce que nous pouvons encore contracter d'autres dettes? On dira que le Congo est un pays insolvable sur tous les plans, en commençant d'abord par sa dette auprès des provinces. C'est un peu ça, M. Gilles.
Alors, donc, si je comprends bien, vous partagez l'avis de ces observateurs qui estiment que cette affaire devra permettre à l'État congolais d'accélérer le paiement de ses dettes publiques, que ce soit internes ou externes. Donc, de les payer vite
pour des avis pour éviter
ce genre de situation.
Le gouvernement doit accélérer le paiement de ses dettes vis-à-vis des tiers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que ça, c'est un signal fort. Nous ne vivons que le début. Il y a des saisies et des saisies qui vont se succéder. C'est ça que nous ne voulons pas, accepter. Bon, le gouvernement a fourni un grand effort pour doter la RDC d'une compagnie aérienne nationale. Et voilà maintenant, dès le début, dès l'entame même de cette société, il se pose des problèmes. Nous ne savons pas où nous allons avec notre pays.
Merci beaucoup, Maître Sauville. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Quel est votre point de vue, Félicien?
Oui, mais je constate que dans notre pays, le gouvernement se comporte toujours en gangster. Et on ne peut pas comprendre que cette société a commencé à poser des actes contre le gouvernement depuis longtemps. Il veut faire la saisie ici, il veut porter plainte là-bas, et que le gouvernement n'a jamais pensé à négocier. Et il attendait qu'un jour, cette société puisse réussir et tenter qu'il était en train de tenter. Et puis, cette façon de gérer la chose publique, sans le respect du principe de la continuité de l'action de l'État, ça ne peut pas être sérieux pour un gouvernement. Chacun vient, et il commence là où il commence, et puis ce qui était avant, ça ne le concerne pas comme si la République commence avec lui et on continue. Et cette situation préjudicie beaucoup même d'opérateurs économiques, surtout au niveau intérieur, qui ont donné à l'État, qui ont fourni des fournitures ou des matériels qui n'ont jamais été payés. Et qui sont même parfois tombés en faillite à cause de notre gouvernement. Donc moi je pense que les gens doivent être sérieux. On ne doit pas travailler comme si on était dans une jungle. Un gouvernement doit avoir une planification. Il doit savoir que nous avons des dettes ici, nous avons des dettes là-bas. Et les dettes, ce n'est pas un problème, mais nous, il faut savoir négocier avec les gens. S'il avait négocié avec ces gens-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais il n'oublie pas que il est en train de mettre la population en difficulté. Ici, à l'intérieur, ils ont déjà trouvé au sol l'avion des lacs, avant même que le lac soit liquidé. Donc, l'avion des lacs ne peut pas fonctionner, ne peut pas survoler l'espace aérien congolais. Et il n'y a pas d'autres sociétés d'aviation, ils ont créé Airways pour la population. Attends, Airways. Et on attend, oui, il n'y a rien d'autre sur le terrain. Et nous n'avons qu'une société privée, c'est un qui est en train de nous maltraiter. Et ils sont calmes, ils sont à l'aise. Nous attendons Airways, si c'est Airways, et avec des avions qui sont confisqués, qui sont arrêtés là-bas et tout ça.
Oui, Félicien.
Ça, c'est pas sérieux pour un gouvernement.
Mais
il y a urgence pour qu'ils puissent payer et que Congo Airways commence le travail parce que la population n'a pas d'autre solution ici au pays. Et ils sont conscients de ça. Mais pourquoi ils se comportent comme ça, en gangster, pourquoi ils se comportent comme ça, à des hommes irresponsables?
Mais Félicien, les experts du gouvernement sont à Bruxelles pour tirer au clair cette affaire. Je crois que dans les jours à venir, nous aurons tout l'éclairage sur cette affaire.
Il n'y a pas à tirer au clair, il y a à payer. Ces gens-là exigent l'argent. Si on paie aujourd'hui, et demain nous avons l'avion, et l'avion rentre ici. Donc on arrête un peu avec l'enregistrement illicite, avec l'enregistrement en cause. Quelqu'un qui entre aujourd'hui au gouvernement, demain il est riche, et il est millionnaire et tout comme ça, mais qu'on puisse s'occuper un peu du peuple et de l'État congolais. Donc ce n'est pas les 10 millions qui vont manquer, parce que si les 10 millions étaient pour les partager, on en trouverait toujours. Vous voyez leur fin de vie, comment ils se comportent, comment ils vivent. Alors, il ne faudra pas qu'on puisse dire on manque l'argent, on met ceci, cela, qu'on puisse payer les 10 millions et qu'on prenne cet argent et qu'on mette de l'ordre dans la gestion de la chose publique. C'est ce que nous leur demandons, parce que nous n'avons pas, la population congolaise n'a pas besoin de devenir tous présidents de la République, tous ministres, tous premiers ministres, tous DG, mais ceux qui sont là, qui travaillent pour l'intérêt général.
Merci beaucoup, Félicien. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, merci de nous rejoindre.
Merci beaucoup de la parole, Monsieur JR. Moi, je crois que vraiment, c'est de la négligence et c'est de l'incompétence. Que vaut 10 millions de dollars pour un Congolais? Moi, je fais un petit calcul. Un hectare, disons, prenons 10 hectares de café, vous donne 1 million de dollars, je crois, approximativement, par récolte. Ça, c'est le minimum du possible. Je me demande, ce gouvernement a planté combien de nombre de caféiers? Combien le nombre de cacaoyers, combien le nombre de EVA, là, on ne voit pas. On va faire prendre un avion. Cet avion-là, qui a été acheté pour aider les Congolais, moi je mets entre guillemets pour faire la propagande, parce qu'on a trop parlé sur ces avions-là, voilà le scandale. C'est ridicule. Le gouvernement doit se ressaisir. Ils n'ont bientôt que peut-être 15 mois à gérer encore ce pays, mais ils doivent prendre le courage de payer les dettes. On ne peut pas se cacher derrière les explications, comme vous le dites, qu'il y a des experts qui sont allés. Que les experts sont allés faire quoi? Ces gens-là, ils attendent leur argent. Et 10 millions de dollars, faire ridiculiser une nation comme la mienne, vraiment, c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Moi, je le dis, sans mâcher les mots, le gouvernement, en tout cas, le premier ministre peut démissionner pour l'honneur. Hein. Moi, je crois que pour l'honneur seulement, il démissionne. Parce que c'est ridicule, c'est vraiment ridicule et je ne peux résister dans des histoires comme ça.
Oui.
On gère ce pays comme si on gérait des poches.
Oui, Arsène. Arsène.
Oui, oui.
Vous êtes sans ignorer que gérer l'actif et les passifs dans le cadre du principe de continuité de l'État, c'est quand même pas une mince affaire.
Oui, je sais que ce n'est pas une mince affaire, mais avec un État comme l'État congolais. C'est ridicule, M. Gilles, c'est ridicule. Regardez, on prend de la ferraille, on va mettre des arbres sur le boulevard qui nous coûte 17 millions. À quoi ça va nous servir immédiatement? C'est passerait là, à quoi ça va nous servir? Pourquoi on n'a pas commencé à pas payer les dettes et mettre après ces réalisations-là? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on doit se faire ridiculiser comme ça tout le temps? Dans chaque domaine, nous devons nous faire ridiculiser. Et entre temps, que nous nous faisons ridiculiser, on est en train d'acclamer. Voilà, nous avons acheté un avion, on a acheté deux avions. Mais c'est ridicule. Je m'arrête là parce que c'est trop. Sinon, je risque de prononcer des mots que je ne peux pas prononcer sur le
nom. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé de Kikwit. Alice, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Alice, madame. Madame Alice? Madame Alice, vous êtes à Kisangani? Voilà, attendant que la ligne puisse s'améliorer, on va prendre Olivier qui est à Kikwit. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, JR, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Olivier.
Ok, voilà. En tout cas, je pense que mes prédécesseurs ont dit tous les gros mots qu'il fallait sortir. C'est vraiment ridicule. Mais ça ne peut pas nous étonner, JR. Ce qui se passe reflète le manque de considération que le monde extérieur a vis-à-vis de la RDC. Donc, plus personne ne peut nous considérer comme des personnes. Nous ne sommes plus un État au regard du cafouillage qui règne à l'intérieur du pays. Et ça, je pense que l'une des solutions pour le moment, c'est que les Congolais se réveillent parce que les dirigeants ont montré leurs limites. Alors, il y a un problème. Vous voyez très bien que il y a une faiblesse diplomatique. Parce que ce qui se passe, ce sont des problèmes que d'autres pays ont déjà connus, mais la diplomatie doit jouer son rôle. On peut dire, c'est vrai qu'on va payer, mais sur le plan diplomatique, on peut négocier. Or, chez nous, vous comprenez qu'on ne sent pas l'implication de la diplomatie. Et c'est pour ça que, partout ailleurs, on se dit, mais en fait, est-ce que ce champ-là qu'on appelle RDC appartient à quelqu'un? Et là, vous voyez qu'un champ qui n'appartient à personne, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, il y va de l'honneur de la nation, il y va de la dignité des Congolais, et le résultat que nous voyons aujourd'hui, en fait, c'est le résultat aussi du comportement général des Congolais. Parce que moi, je me dis que si les dirigeants ne font rien, et nous, Congolais, qui ne dirigeons pas, nous faisons quoi? Nous tous, nous sommes là, bras croisés, et nous sommes là, Costume Cavac, et personne ne parle des problèmes du pays. Donc ça, je crois que c'est vraiment le fruit de notre comportement général. Nous regardons, mais nous ne voulons pas réagir. Alors, je crois qu'il est temps que les Congolais prennent conscience de sa responsabilité, de tout ce qui va arriver à ce pays. Donc, si on ne prend pas conscience, je crois que demain, ce sera une autre affaire. Et une autre affaire qui va se, finalement, on va demander de. Il y a des gens qui vont finalement demander d'acheter le Congo. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on ne doit pas admettre.
Oui, Olivier, on sait que l'État doit beaucoup des gens, des milliers, dizaines de milliers de personnes. Alors, aujourd'hui, cette affaire, pour certains, donc, devra permettre à l'État, quand même, d'accélérer le paiement de ses dettes publiques. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ce problème, justement, montre à tout le monde que l'État est incapable. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est prendre conscience d'abord et réveiller tout ce qui nous dirige, faire partie de ceux qui sont incapables de façon manifeste. Mais ça ne va pas pousser l'État à punir, ça va seulement réveiller les incapacités. Et il y a aussi ceux qui débutaient encore des incapacités, faire à partir de ce problème, constater que nous sommes incapables de gérer parce que 220 millions de dollars. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la mer à boire. Donc voilà.
Merci beaucoup, Olivier. 081-890-6315 pour votre intervention en direct partout où vous trouvez en République démocratique du Congo ou bien à l'étranger.
Nous recherchons la voix de la paix 2015. Vous êtes chanteuse, chanteur ou un groupe de musique? Vos chansons parlent de paix, de réconciliation? Rendez-vous sur lavoixdelapaix.org pour participer et nous envoyer vos chansons avant le 5 octobre. En partenariat avec la Fondation Hirondelle, à travers un réseau de plus de 200 radios dans 5 pays d'Afrique, dont le vôtre, un jury africain et européen élira le vainqueur à qui nous produirons un album distribué dans le monde entier. Lavoixdelapaix.org, des chansons pour construire la paix et la réconciliation.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs ce cadre d'échange et de partage citoyen. Avec vous, Jules, vous êtes à Lubumbashi et Franck à Kinshasa. Jules, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Jules.
Oui, ok. Je voulais juste partager aussi. Ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Notre gouvernement, je ne sais pas, parce qu'on dit diriger ses devoirs. Donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le gouvernement devait commencer à. Parce qu'il y a les ministres, il y a tout le monde à sa tâche. Il fallait qu'on puisse régler tout ça bien avant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes salis partout. Oh, vous les Congolais, même les petits affaires ici. Quand vous traversez seulement Zambie à vous, on va même respecter les autres, mais pas vous les Congolais. Or, c'est le Congo, c'est un grand pays. Nous avons tout. Ce n'est pas l'argent qui manque. Vous pouvez aller même ici à Kasumbalesa. Il y a donc la recette des journalières, je vous dis, c'est beaucoup d'argent à Kasumbalesa seulement, pas à Likasi. Vous voyez, la caisse de l'État fait entre combien d'argent par jour? Et vous allez me dire que non, c'est l'argent qui manque. Et l'argent là de quoi à Congo-Brazza, si c'est 200 combien de mille de dollars. Et ça, ça peut venir même dans une poche d'un individu. Hein? Pour un grand gouvernement, nous pouvons manquer cet argent-là. Donc c'est ça, c'est
merci,
grave.
Merci
ça.
Beaucoup, Gilles. Franck, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Franck. Franck, vous êtes avec nous?
Oui, allô, JR, je vous écoute, je suis en ligne.
Oui, vous avez la parole, Franck.
Ok, par rapport à cette situation qui vient de se passer, donc c'est vraiment une honte. Et moi, j'appellerai ça, je qualifierais ça comme étant une honte internationale, une honte populaire que le gouvernement congolais est en train de nous foutre aux yeux. Vous savez, moi, j'ai même travaillé. Pardon?
Allez-y, allez-y. Oui,
j'ai même travaillé dans une agence de transport, une agence internationale de transport basée ici au Congo. Nous avions transporté les conteneurs de la Gécamine pour la réhabilitation de sa nouvelle usine vers l'ICACI, juste pour payer 53 000 dollars. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai quitté cette entreprise, ça n'a pas été payé. Moi-même, l'État congolais me doit 404 000 dollars. C'était une condamnation judiciaire. J'ai tous les documents, le jugement rendu à tous les niveaux, juste pour la certification, c'est depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de marcher. J'ai même arrêté de faire des augmentations par rapport à ça, parce que je comprends que l'État congolais n'a pas cette volonté de payer les dettes publiques. À ma place, si j'étais le premier ministre, j'allais démissionner pour mon honneur. Si j'étais un des ministres des budgets, des finances, des consorts, moi je sais pas quoi, j'allais démissionner pour mon honneur. Ça, c'est vraiment une honte.
Et oui, mais Franck, est-ce que vous avez, au fait, eu l'occasion d'échanger, d'entrer en contact avec ceux qui doivent vous faire entrer dans vos droits?
Certainement.
Parce qu'il y a tout un mécanisme. Oui.
Depuis 2011 que j'ai déposé ma lettre de certification au niveau du ministère des Finances. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est vraiment bizarre avec le gouvernement congolais. On doit voir comment rectifier les choses, rectifier le tir pour améliorer les choses au niveau de...
Alors, l'État vous doit à peu près combien, Franck?
Pardon?
L'État vous doit combien?
L'État me doit 404 000 dollars, condamnation judiciaire.
404 000 dollars.
404 000 dollars, et c'est depuis 2006.
C'est
un manque de bonne foi, de bonne volonté pour payer. L'État congolais ne manque pas 404 000 dollars pour me remettre dans mes droits.
Et moi, je pense
que la méthode que nos amis américains, la méthode utilisée par nos amis américains, de bloquer cet avion, c'est la bonne méthode. C'est une bonne procédure, moi, je pense.
Alors,
c'est une honte pour les imaginez, il n'y a pas longtemps, même en France, on a coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade du Congo. Vous pouvez vous rendre compte?
Alors, parce que vous êtes concerné par cette situation des dettes publiques, parce que l'État vous doit également, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur aujourd'hui, c'est brouillé, hein, parce que nous disons, nous prenons ça sous réserve également, que ceux qui sont concernés, qui l'État doit, on leur exige le 10%, on leur exige un peu une somme, ou peut-être pas avoir la totalité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, vous avez été victime de ces cas?
Pardon?
Est-ce que vous avez été victime de pareil cas, c'est-à-dire avant qu'on vous paye, on vous demande d'accepter un montant, mais en laissant une partie?
Certainement. Il y a quelqu'un que j'avais contacté qui m'aidait aussi par rapport à toutes ces démarches, qui me dira ils sont en train de dire qu'il serait mieux de signer un document selon lequel au moins un paiement de 40%.
Un paiement de 40%.
Ça va tomber 60% et 40% qui doit me revenir, moi, là, j'ai refusé. J'ai dit, je dois aller jusqu'au bout. L'État congolais ne manque pas de moyens.
Voilà, merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Kinshasa et d'avoir apporté ce témoignage dans cette émission. Merci beaucoup. Richard, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous ceux qui ont parlé. Félicitations à la gestion de l'avenir à beaucoup de gens. Et puis, tous ceux qui sont blessés, si moi j'étais du lac, j'allais dire à notre avocat conseil, nous qui sommes blessés avec peut-être 50 ou 60 mois ou 500 mois d'impayement, comme Madame Joséphine avait dit, si j'étais de lac, j'allais enfoncer le clou pour aller aussi en Irlande présenter la créance de l'État envers les agents de lac. Nous qui sommes blessés aussi, nous, de deux internationales, nous devons aussi aller en Irlande, enfoncer le clou, parce que la Banque centrale nous payait en 2011 29% de notre dû passé dans deux internationales. En d'autres mots, je voudrais dire quoi? Comme on l'avait dit hier, les qui tue son peuple, l'État qui n'aime pas son peuple. À quoi bon de créer la RDC, la tombe blanchie, avec des entreprises patati, des prêts achetés à gauche à droite, c'est bien. Mais le peuple vit comment? Mon prédécesseur a parlé de 4 à 40 000 dollars qu'on n'a pas payé. Il vit comment? Et puis on lui demande l'opération retour. Et puis, en face de ça, on a un programme ambitieux, nouvelle citoyenneté, qui veut dire quoi? C'est ça le problème. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dr. Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Jean, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jean.
Bonjour, c'est Jean-Michel de la partie de Lubumbashi. Oui, singulièrement, j'ai salué ce processus. Parce que ce processus va aider nos dirigeants à devenir plus sérieux. Parce que ce n'est pas vraiment très applaudi. On nous parle des experts. C'est tellement les noms. C'est tellement les noms d'experts. En quoi il ne faut jamais cette bonne foi de devenir sérieux parce que vous savez, chaque fois des experts. C'est tellement les noms. Parce que il y a eu un problème d'un festival qui a été organisé du Congo en face. Il y a eu une délégation pour aller négocier. Toujours de négociation. L'État congolais doit avoir une planification. Tout dépend de la planification. Afin de régler des problèmes de gauche à droite. Moi, je salue cette initiation que l'État irlandais puisse saisir cet appareil jusqu'à ce qu'il va régulariser. Il est devenu quand on se plaît. Et le courant au niveau de l'ambassade congolais. C'est très ridicule. C'est très ridicule. Les gens doivent être sérieux. Parce que si nous avons des dirigeants sérieux, ce pays ira de l'avant. Parce que vous imaginez un problème de 220 000 dollars, on commence à tirer des cris d'alarme de gauche à droite, mais quand vous y passez, vous trouverez non, cette chanteur c'est pour MSI-liste. Et cette maison qui comptait sur MSI-Y. Et une maison qui coûte parfois 400 000 dollars, 500 000 dollars, mais pour un petit problème de 220 000 dollars, il faut envoyer une délégation pour aller négocier. Wow! C'est tellement de la bonne foi tellement.
Merci.
Si les dirigeants arrivent à devenir sérieux.
Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé de Lubumbashi. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Après la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis, les francophonies s'installent en RDC du 7 au 13 septembre, vivre au rythme des sonorités congolaises et étrangères au Centre culturel Métro, au Tanton à l'Université, au Théâtre de Verdure, à l'Hôtel Invest et dans certains bars désignés pour les folies. Avec à l'affiche, La Queen, Soprano, Papa Wemba, Jiben Tiana, Fali Toupa, Fabregas, Lexus Legal, Jean Roubalcalala et tant d'autres artistes congolais et internationaux. Les Francofolies de Kinshasa, du 7 au 13 septembre, avec l'ASBL, Aphrodisiac et Radio Capi. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, nous avons dans ce studio Monsieur Florimond Mouteba Tshilenge, qui est directeur général de l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques. Bonjour Monsieur Florimond.
Bonjour Gérard.
Voilà, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir pour la deuxième fois, là, c'est bonsoir dans cette émission. En tant qu'observatoire des dépenses publiques, est-ce que vous avez des observations à faire par rapport à cette affaire Congo Airways avec des avocats de la partie américaine qui exigent à l'État congolais de payer leurs clients une dette de 10 millions d'euros. Alors certains observateurs estiment que cette affaire devra permettre à l'État congolais d'accélérer le paiement de ces dettes publiques. Vous venez d'ailleurs de suivre le dernier auditeur, donc un dernier auditeur qui a évoqué l'opération retour. L'État lui doit 4 000 dollars et on lui a demandé pour éponger peut-être cette dette, d'accepter simplement de percevoir les 40% de cette créance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez quel regard par rapport à cette situation?
Oui, JR, d'abord, cette histoire de l'avion, c'est vraiment humiliant pour le peuple congolais. C'est d'abord ça, c'est vraiment humiliant, et même honteux, j'allais dire, pour un gouvernement. Et ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une manifestation apparente d'un mal profond. Un mal profond qui est la mauvaise gouvernance, qui nous accompagne depuis les temps de l'époque du maréchal Mobutu. Vous savez, on parle aujourd'hui de cette petite dette, mais vous savez qu'il y a un an ou deux, lorsque le Congo a atteint le point de l'achèvement,
avec,
il y a eu à peu près 13 milliards de dettes supprimées. Mais les gens ne se sont jamais posé la question de savoir ces 13 milliards ont été accumulés comment. Mais c'était à travers des projets mal identifiés, mal évalués, mal conçus, mal gérés. Et donc, on peut emprunter de l'argent. Mais les entreprises, 13 milliards, bon, c'est à la limite, c'est la dette dure commune en France ou aux États-Unis. C'est rien du tout. Mais on peut emprunter de l'argent, mais si à côté il y a des projets rentables qui peuvent faire en sorte que cet argent soit remboursé, il n'y a pas de problème. Mais à cette époque du maréchal, c'était comme ça. Et puis, bon, nous avons été proclamés pays pauvre très endetté. Et nous avons même été fiers de dire, oui, nous avons atteint le point de non-achèvement, pays pauvre très endetté. Mais c'était l'aveu d'échec. Lorsqu'au bout de 60 ans, on arrive à la conclusion que nous sommes un pays pauvre très endetté, ça veut dire qu'on a échoué sur toute la ligne par rapport à tous les programmes qu'on a essayé de mettre en route pour pouvoir, soi-disant, faire le développement. Donc on devrait avoir honte de dire nous sommes pays pauvre très endetté. On nous a supprimé la dette. Mais maintenant, cette même dette-là, elle est en train de se reconstituer parce qu'on ne voit que l'affaire de l'avion. Mais il est aussi en train de se reconstituer d'une autre manière. Et donc, je dis, c'est tout simplement un problème de mauvaise gouvernance, parce que bon, et c'est même un problème des problèmes d'un État pauvre, quoi. Pauvre, pas parce que nous n'avons pas de minerais, non. Potentiellement, nous sommes riches, mais comment nous arrivons à nous gérer pour traduire ce potentiel en richesse réelle? C'est ça le problème. Vous savez, lorsque nous avons parlé la fois dernière de la question de la mobilisation des retraites, etc., et nous avons donné des exemples des pays qui ont 70 milliards de budget. Mais quand vous avez 70 milliards, 10 millions, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais même quand vous avez les 4 milliards, si ces 4 milliards sont affectés à des dépenses improductives liées au fonctionnement.
Vous manquez des 10 millions.
Mais vous manquez 10 millions. Vous comprenez que c'est vraiment un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Et donc, j'ai dit, il faut que les gouvernements se ressaisissent et fassent en sorte que cet opprobre nous soit lavé. Mais je vais plus loin. Vous savez, par rapport aux dettes. Mais ces dettes intérieures concernent souvent des petites et moyennes entreprises. Je reviens là-dessus. Mm-hmm. Ça concerne les entreprises congolaises. Mais lorsque ces dettes ne sont pas payées, on connaît ces entreprises à la faillite. Mais quand une entreprise fait faillite, elle met au chômage les gens. Et en même temps, nous avons entendu parler du chantier de l'emploi. Mais ce chantier de l'emploi réussira comment si ce ne sont pas les petites et moyennes entreprises congolaises qu'on est en train de tuer parce qu'on ne veut pas leur payer leurs dettes? Ils ont fourni à l'État. Mais alors, il faut les payer. Mais lorsqu'on n'arrive pas à le faire, et qu'on peut. C'est vrai qu'on peut, à la limite, voir des grands bâtiments. Nous avons vu à côté du Royal un bâtiment qui a été construit. Mais il vaut mieux travailler encore dans les anciens bâtiments, de payer ceux qui doivent produire, hein, payer leurs dettes, pour qu'ils produisent davantage, qu'ils payent davantage des impôts à l'État. Ceux qui les emploient, eux aussi, quand ils gagnent de l'argent, ils payent aussi leur part à l'État. Et donc, je pense qu'il faut, savoir où sont les priorités. Lorsqu'on a fait des moyens, il faut savoir où sont les priorités. Les priorités, c'est de payer des dettes qui, comme celles dont nous parlons, font honte à la République. Les priorités, c'est de payer des dettes aux entreprises, aux PME et autres opérateurs économiques qui doivent continuer à travailler.
Est-ce que vous pensez comme les autres que le cadre, la maîtrise du cadre macroéconomique devrait en principe avoir le fait dans le cadre au fait de ce paiement aussi des dettes intérieures, parce que le fait, est-ce qu'il y a un lien étroit entre les cadres macroéconomiques et le paiement des dettes intérieures, notamment pour ne pas entrer peut-être dans le débat avec l'Irlande?
Bien sûr. C'est-à-dire que d'abord, celle-ci nous amène à douter des prévisions, voilà, des prévisions de croissance. Lorsqu'on nous a clamé qu'on est à 9%, mais un taux de croissance induit automatiquement une plus grande production, un PIB plus important, et donc une plus grande création de richesses. Et lorsqu'alors on crée davantage de richesses, les recettes aussi de l'État augmentent. Et à ce moment-là, on ne peut pas se retrouver dans des situations telles que celles que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous posons la question de savoir, ces prévisions de taux de croissance sont faites sur quelle base? N'est-ce pas? On les fait sur quelle base? Parce que déjà, vous savez vous-même que l'appareil statistique de la RDC est en panne. L'INES. Voilà. Ça veut dire que la comptabilité publique se fait sur des bases très faibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui savoir... Bah,
vous voulez dire qu'aujourd'hui, on se base sur des indices un peu aléatoires.
Des indices aléatoires. C'est vraiment du pifomètre, quoi. Et alors, si ce sont des taux de croissance au pifomètre, nous pouvons comprendre qu'effectivement, ça n'entraîne pas une richesse conséquente. Parce que c'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Parce que si ce taux de croissance était fait sur des bases sérieuses, on sait que le secteur agricole va progresser d'autant, le secteur industriel...
Et c'est là pour nous permettre de payer la créance,
ça peut nous permettre de gagner davantage de ressources et de payer nos dettes. Et d'investir alors, on peut avoir des bâtiments nouveaux, on peut même construire un nouveau palais.
Donc tout passe par la planification, la priorisation.
Effectivement, tout passe par la planification. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Congo se contente de ce qu'on appelle les DCRP, les documents
stratégiques de réduction de la pauvreté.
Comme si le Congo n'avait comme toute perspective.
Mais il y a les DCRP 1 et 2.
Les deux, mais
elle n'a jamais été exécutée, semble-t-il.
Exactement, mais tout va à réduire la pauvreté. Ça veut dire quoi? Peut-être que ceux qui aujourd'hui ne mangent pas pourront manger une fois par mois, par jour. Et bon, ceux qui ne mangent jamais de la viande pourraient manger les biodis une fois par semaine. Est-ce que ce sont là vraiment les perspectives pour un pays comme le Congo? Vous parlez de la planification, oui. C'est un véritable plan de développement et de reconstruction qu'il faut mettre en route. Un plan ambitieux. Parce que nous parlons de la révolution de la modernité. Oui, la révolution de la modernité ne peut pas être juste une réduction de la pauvreté. La réduction de la modernité doit être le développement.
Mais les DCRP, la question, c'est quand même un document très bien ficelé, très élaboré.
Oui, mais c'est la réduction de la pauvreté.
Oui.
Et que personne ne suit d'ailleurs. Parce qu'à côté de l'aide du DCRP, il y a d'autres programmes du gouvernement qui sont mis en place.
Le PEG,
voilà, vous vous retrouvez avec 4-5 programmes, mais on sait quoi.
Voilà, on va vous passer de l'autre côté du standard, M. Florimond Mouteba Tshitenge, directeur général de l'ODEP. On va prendre Jérôme qui est à Bounia, John Alumbashi, Nikes à Bounia également. Jérôme, vous êtes avec nous, bonjour Jérôme.
Ah bonjour,
vous avez la parole, Jérôme.
Ah, je merci pour nous avoir invité à cette émission. Je crois que ce qui est arrivé actuellement avec notre compagnie, c'est la relève de la façon dont on négocie les contrats au nom de la République. Nous sommes un pays toujours, il est dit, probablement riche, mais cette richesse nous profite à quoi? Il y a la potentialité, on ne dira pas que. Qui c'est que nous avons l'or, les diamants, tout ça? Ça, on ne dira pas c'est pour nous les Congolais. Non. Ça y est, au Congo. Mais pour que cela redevienne pour nous les Congolais, nous devons y mettre les moyens, l'exploiter au profit de la République. Le moment que nous n'avons pas la capacité de le faire, nous recourons à des partenaires qui viennent vers vous. Nous ouvrons la porte pour qu'ils viennent, afin qu'ils s'associent à nous produire ensemble, afin qu'on bénéficie de ce qui pourrait revenir afin de servir la République. Un problème chez nous a été toujours la façon dont on négocie les contrats. Voilà aujourd'hui l'une des conséquences. Il faut qu'on négocie un contrat avec l'État, on ne se plie, va sortir et puis on essaye de, comme tu voudrais, jongler le partenaire et on tombe dans l'erreur à l'avenir, c'est toujours la République qui revient en arrière. Ce dossier nous fait prier, je pense que c'est toujours les zones de la radio Café Moment. Il y avait le, vous vous souvenez du dossier des blocs de pétrole sur Lac et Albert, tout ça, qui avait mis le site du gouvernement confié à une société, disant le gouvernement va encore confier à une autre société le même bloc. À un moment, le gouvernement congolais va se retrouver à une vierge de niveau des chambres internationales de commerce pour pallier à ce problème. Ça nous fait aider toujours lorsqu'on négocie vraiment les contrats au départ avec nos partenaires. Moi, je pense que de mon côté, comme solution, il faudrait que les gouvernements mettent en place une structure d'experts dans la négociation des tout contrats au nom de la République. Et avant de signer, les choses doivent être bien analysées. Sinon, on continuera toujours à faire de pas en arrière. On est dévolé parce que là, les amis viennent, ils profitent de notre faiblesse dans la négociation. Et au moment des négociations, dans le nombre des cas, on signe des histoires par la suite. Non, tel a signé, tel n'a pas signé. Non. Tous les contrats doivent être.
Voilà, Jérôme, on a des petits soucis avec votre ligne, on dirait. Bon, on prend plutôt John qui est à Lubumbashi. John, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, John.
Oui, monsieur Gilles, je vous remercie beaucoup. Je commence d'abord par féliciter et remercier aussi tous les intervenants de tout à l'heure. Nous savons que le pays a des problèmes, c'est vrai. Nous ne pouvons que remercier les actes combien importants posés à l'égard du gouvernement. Mais en fait, à l'égard de la population, nous ne pouvons pas énumérer ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui dans le pays. Cependant, l'État congolais doit savoir respecter sa parole et honorer aussi sa parole. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi le problème. Le gouvernement doit savoir accorder la priorité dans ce qu'il est en train de faire comme engagement. Je crois que si il arrive à avoir ces deux éléments et les catégoriser, beaucoup de choses peuvent aller parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais lorsque vous n'avez pas de priorité, vous ne savez pas ce que vous devez faire, je crois que ce sera un exemple de choses. Les deux éléments que je demande à l'État aujourd'hui, c'est savoir d'abord respecter sa parole, honorer aussi sa parole, et la deuxième des choses, il doit faire tous les efforts possibles pour qu'il sache prioriser la parole des choses. Bon. Il sait dit aujourd'hui qu'il a un problème avec tel individu, il a un problème avec tel entreprise, il a un problème avec tel pays. Est-ce qu'il ne peut pas commencer par libérer même, qu'est-ce que ce soit, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000, ça peut être 300 000, si aujourd'hui on commence à libérer un demain, un autre le lendemain, tu trouveras que nous allons garder le nom de la personnalité, comme les États-Unis d'Amérique le font. Ils font un effort pour garder juste l'honneur du pays. Donc nous avons vraiment cet avantage
pour
que ne soit pas régularisé dans le mal, parce que quand vous vous déplacez aujourd'hui, vous allez ailleurs, on sait que seulement votre nom dit vous êtes un Congolais, mais il faut voir, vous risquez que votre passeport ne soit pas pris avec beaucoup de considération que celui qui vit dans un petit pays qui n'est pas aussi grand comme les nôtres. Ce n'est pas un problème de capacité, un problème d'assiette, mais un problème plutôt de l'honneur du pays ou le respect du pays qu'on accorde.
Alors, donc, je crois que si je pourrais interpréter facilement vos propos, je retiens qu'il faut une programmation claire, le paiement des dettes, et ça pourrait aider, pourquoi pas, médiatiser, comme ça les gens auront les rappelements, ils sauront que même si on va me payer dans 2 ans ou 3 ans, mais c'est déjà à noter que dans chaque idée, on va prévoir cette rubrique de programmation, de paiement, de dettes, de vitérer ces genres de situations saisies ici, saisies par là, et d'autres qui menacent même de saisir aussi de réquisitionner les TV Controlo ou faire d'autres, voilà. Donc autant de scénarios que les gens sont en train de monter et qui, en fait, ridiculisent un peu de notre état. Merci beaucoup, John, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nikès, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, Nikès.
Merci, J.R. Je salue tous les intervenants. Mais ici, je voulais juste peut-être apporter ma petite contribution sur l'émission en disant ceci. La RDC n'a pas que dalle. La RDC a beaucoup d'ennemis sur l'étendue du globe terrestre. Et je voulais peut-être épingler une chose. les amis ont raison de pouvoir se plaindre sur les comportements ou la prise de décision du gouvernement actuel. Mais toujours, je trouve que nous avons acheté des agents. Et ces agents, est-ce que les gens à qui nous devons l'argent attendaient juste le moment de la livraison pour bloquer ces agents-là ou cet agent? Voilà. Il faut se poser la question, qui est derrière cette décision? Pourquoi seulement bloquer l'avion? Est-ce qu'il y a déjà une autre...
Oui, Nikes, il faut noter qu'il y a plusieurs moyens pour contraindre, disons, votre débiteur ou encore votre créancier à pouvoir payer ses dettes.
Tout à fait.
Donc chacun est libre d'utiliser n'importe quel moyen pour contraindre son créancier.
Quand nos amis sont en train de se plaindre, parce que c'est bien comme ça doit servir aux Congolais. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir faire la chose? Où il n'y a pas une main noire qui ne veut pas que les Congolais...
Alors vous proposerez quelle démarche, par exemple? Parce que peut-être celui qui devait rentrer dans ce droit, il a longtemps attendu, et puis il était vraiment au bout de sa patience.
Tant mieux, JR. Il a droit de faire tout ce qu'il veut, mais tout ce que moi je vais demander aux Congolais, c'est d'être patriotique et d'aimer son pays. Nous n'avons pas que d'amis dans ce pays. Nous n'avons pas que d'amis.
Il y a aussi des ennemis.
Pas que nous puissions décoller demain. Les gens cherchent toujours à ce que nous puissions être accroupis. Les gens cherchent à ce que nous puissions tendre la main. Nous avons vécu dans ce pays, du temps de Mouzel Laura de Guinée Kabila. On avait fermé tous les robinets pour qu'il n'y ait pas de carburant à tout ça. Les gens ont fait des fils et des fils. Tout ça, c'était pour ingénier Kabila et lui faire échouer. Et nous savons que lorsque le gouvernement est en train de faire un effort du jour au lendemain, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui veulent voir les Congolais faire des pieds, les Congolais. Il y a des gens qui veulent toujours du mal aux Congolais. Moi, je pense que nous devons raisonner dans ce sens-là, aimer notre pays, encourager ce qui est bon, et chercher à ce que parce que l'avion l'a acheté. On n'a pas pris cet avion à crédit. Ce sont des avions qu'on a achetés cash. Mais si aujourd'hui les gens ont cherché à saisir l'avion ou à bloquer, et donc il y a une mémoire. Pourquoi c'est mal l'avion? Et c'est de façon-là qu'il faut chercher à honorer la dette ou à te faire payer. Je ne pense pas. Moi, je pense que tout ça va énerver les Congolais. Les Congolais vont parler des responsabilités du gouvernement. Ce que les amis ont dit, ils ont raison. Mais est-ce que c'est la meilleure façon des choses, de faire des choses? Ça énerve quelquefois. Donc, nous devons être comme nous devons être fiers de nous-mêmes. Nous devons nous serrer les coudes. Nous n'avons pas que d'amis. Nous avons beaucoup d'ennemis qui veulent toujours nous voir.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nikes. Nous rappelons d'ailleurs nos numéros pour participer à cette émission. Les 081-893-15 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà, nous rentrons dans ce studio avec vous, Florimond Mouteba Tshitenge, directeur général de l'ONEP. Vous venez de suivre avant l'auditeur d'information cette série d'auditeurs. Il y a un auditeur, John de Lumbashi, qui a parlé de la programmation de PIMA, de ses dettes, parce que c'est vrai, l'État doit beaucoup de gens. Il faut vraiment une politique de programmation, comme ça prend quand même un peu d'esprit, au lieu de faire sourd oreille, de ne pas payer et aussi exiger le l'opération retour, ça nous déshonore. Alors il y a cette affaire évoquée par un autre auditeur qui parlait tout à l'heure des ennemis. Pourquoi avoir agi en ce moment où les gens ont besoin réellement de cet avion pour décoller une fois pour toutes?
Mais d'abord pour celui qui parle du patriotisme, mais le patriotisme ne doit pas être exigé seulement de la population. Le patriotisme doit être exigé, entre autres aussi, de ceux-là qui demandent 40% à leurs compatriotes. Le patriotisme doit être exigé de tous ceux qui doivent aux Congolais et qui ne le font pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas chaque fois que nous devons essayer de faire une analyse de nos mauvaises pratiques pour nous corriger, qu'on nous sorte l'histoire du patriotisme. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, la plupart des Congolais sont des patriotes. Donc, il ne faut pas demander aux Congolais qu'on continue à les fouetter, n'est-ce pas? Et pour leur dire, non, acceptez les fouets parce que vous êtes des patriotes. Non, je pense que là, c'est pas de cette manière-là qu'il faut voir les choses. C'est vrai que il était possible, peut-être que si on avait négocié avec les créanciers, on n'allait pas connaître cette situation. Il y a un des intervenants qui a parlé de la diplomatie, etc. Je crois qu'il y avait moyen de faire en sorte qu'on ne connaisse pas cette humiliation. Mais je pense que C'est un mauvais conseil à faire aux Congolais de parler de patriotisme. Non, je crois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Le Congo n'a pas d'ennemis. Mais c'est à nous-mêmes de nous organiser pour pouvoir faire face au coup de l'ennemi, notamment par notre propre organisation, notre planification, etc. C'est ainsi que celui qui parle de programmer dans le temps les paiements de la dette, il a raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner aux Congolais l'impression que leur gouvernement ne s'occupe pas d'eux. Qu'il faut qu'on... Puisque les Congolais ici n'ont pas les moyens de faire comme les Américains ou autres. Hein, on ne va pas aller... Voilà.
Oui.
Mais il est possible, il faut penser aux Congolais, aux entreprises congolaises, aux individus, il est possible effectivement de programmer les paiements de ces dettes petit à petit. On paye une dette, une grosse dette peut être payée dans 6-5 ans.
Oui, mais le problème est que ça soit officiel. Si ça peut
apparaître
dans le journal officiel,
exactement.
Que tout le monde sait à quelle date je dois, c'est trop
transparent. Transparent.
Oui.
Que ce soit transparent. Et que les
ça
gens,
nous éviterait ces genres de
corruption,
tout ça.
C'est parce que vous savez, la corruption, elle a tout gangréné. Alors, il faudra faire en sorte de contourner ces pratiques-là. Qui font que, bon, celui à qui on doit 100 000 dollars, en fin de compte, au mieux, il va récupérer 20 000 ou 30 000, et le reste, ça va...
Parce que ceux qui doivent à l'État, on publie, sauf idée à publier des éléments de la liste, pour que tout le monde se fasse une idée très claire, qui doit combien à l'État.
Exactement.
Alors, pourquoi ne pas faire l'inverse? L'État publie ce qu'il doit aux particuliers.
Mais il doit, l'État doit publier, et publier cette programmation. Parce que l'État ne doit pas servir qu'aux particuliers, l'État doit à la semelle. L'État doit à la Régie des eaux.
L'État doit à l'OCC.
L'État doit à beaucoup d'entreprises publiques ici qui ont du mal à fonctionner parce que s'il faudra pour avoir du chlore pour la Régie des eaux avoir besoin de l'aide internationale alors que l'État lui doit et que si l'État lui payait, quand je dis l'État, c'est à travers les ministères, les services publics, etc., l'armée, l'État doit à toutes ces entreprises. Donc il est important que l'État puisse pouvoir programmer les paiements à cette entreprise. Et donc, je suis d'accord avec notre ami,
auditeur,
programmer et rendre public pour que ce soit transparent.
Non seulement programmer, mais rendre public pour qu'on
travaille
vers la transparence.
Exactement.
Merci beaucoup. On va prendre François qui est en Boujimaï, confiance à Kinshasa, Mouteb à Lumbashi, et puis on va terminer avec cette série des auditeurs. François, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bon, ma petite contribution est de voir que je suis patriotique, comme on le dit, comme tout Congolais. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Entre autres, attendre que notre agent ait été trouvé, ça nous dérange beaucoup en tant que Congolais, mais nous regrettons seulement les comportements de ceux qui dirigent un peu le pays. Et ce n'est pas pour dire que tous ceux qui font sont toujours mauvais, et nous les voyons toujours à noir. Vous connaissez qu'ils ont des efforts qu'ils conjuguent, mais il y a des autres pour lesquels nous sommes abattus. Il y a un problème, et c'est les journalistes. J'ai un ami, moi personnellement, ici en Bougemar, depuis, je crois, 20, 10 ans d'années, qui a versé une grande somme d'argent à la banque, avec l'engagement avec l'État, mais le monsieur est devenu, au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de millions. Il faisait plus de 100 kilos maintenant, il fait moins de 60 kilos. Il est à Kinshasa, appelé par le gouvernement, et on a tout fait, et par je ne dis pas gouvernement, appelé là-bas par les services de l'État. Comme il ne m'a pas donné de mandat de parler, parce que c'est une situation que je maîtrise bien, c'est pourquoi je vous dis. Il est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a de cela maintenant 8 ans. Il me dit toujours que non, ça va, c'est en bon terme avec l'État. Moi, je suis conscient aussi de ce qu'il me dit. Il me dit que la procédure est bonne. Parce que les journalistes, si on paye seulement une seule personne là, ils devraient engager tout au moins 30 ou 40 personnes. Et là, ils ne devraient pas absorber un peu de chômage. Moi, j'étais à Kinshasa, en Asie, en 2000. Je voulais entrer en Chine. J'étais au niveau de Hong Kong. Je trouve dans une agence de visa, on a marqué tout le monde peut accéder au visa, sauf les Congolais de Kinshasa et les Maliens. Ça, j'ai dit merci ma poitrine. Et j'étais accompagné de mes 4 amis, messieurs les journalistes, mettez-vous à ma place. J'étais seul Congolais de Kinshasa là-bas. Je crois que je suis même ouvrir la terre pour entrer pour des gens intérêts. Mais c'est le journaliste que nous demandons. Nous supplions nos dirigeants de procéder à payer les aides intérieures. Le monsieur que je vous dis, là, quelqu'un qui était homme d'affaires, ses enfants sont devenus wewa. On a tué même le livre des personnes à Lubumbashi. Les journaux ont parlé là-bas de ça. Et on regrette de voir là où nous allons. Comment nous pouvons encore nous engager avec l'État? Si ceux qui se sont engagés se trouvent maintenant dans une phase que nous traversons et qu'ils traversent maintenant. Et ces journalistes, c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, François. On va prendre confiance qui est à Kinshasa. Confiance, bonjour.
Allô? Bonjour, Mbote Djambo à tous les occupés de la Radio de la Paix. Ça va un peu mieux maintenant. Mais en fait, je suis un peu contre tous ces gens qui disent que le pays a un problème, il faudrait avoir un peu de patriotisme et qu'on sort. Moi, je pense que le plus grand problème que ce pays a, c'est un problème de personnes qui le dirigent. En fait, je vois mal, et ça fait vraiment mal, que pour une très petite somme comme ça, de 11 millions, que tout un État soit traîné dans la boue à cause des gens qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Parce que pour respecter les droits des autres, il faut d'abord avoir du respect pour soi-même. Je pense que c'est difficile que si on n'a pas du respect pour soi-même, de respecter les droits des autres. Et moi, je pense que le moyen qui a été utilisé, c'est un bon moyen. Et ça fait vraiment la honte à un si haut niveau de voir que le pays est traîné dans la boue pour une petite somme de 11 millions de dollars.
Voilà, pour éviter ce genre de situation, que d'autres personnes utilisent les mêmes moyens pour en fait sommer l'État à payer leur dû. Alors, vous proposez quoi rapidement
Personnellement, je proposerais que l'État soit plus responsable. Qu'on le mette à la tête des institutions de l'État, des gens qui ont un peu de la dignité pour ce pays, des gens qui ont le sens du respect des droits des autres. Parce que vous allez voir que ces mêmes personnes qui n'ont pas su payer 11 millions de dollars vont se taper les frais d'émission pour aller négocier à l'amiable ce dossier qu'ils auraient dû négocier ici il y a plus de 5 ans.
Merci beaucoup, confiance.
Il y a un problème de programmation.
Merci beaucoup. Problème de programmation, donc on revient encore sur ça. On va d'ailleurs insister avec notre invité tout à l'heure. Mouteb, vous êtes à Lubumbashi en 30 secondes, rapidement.
Oui, monsieur. Je vais répondre aux intervenants qui parlent toujours de condamner les gouvernements. Là, le gouvernement les a appris, on ne sait pas si c'était pour les faits du Congolais ou des Aïrois ou bien c'était pour la personne. Maintenant, tous les intervenants condamnent toujours le gouvernement. Comment? Pourtant, c'est une dette qui est sûre de demander comment ça se passe. Maintenant, les intervenants condamnent toujours le gouvernement. Depuis quand ce gouvernement a eu la dette ailleurs? Mais au lieu de voir d'abord comment l'argent là-bas, comment ça s'est passé, maintenant, je te dis bien qu'on a
le gouvernement. Voilà.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Moutéba. Je crois qu'on a assez de temps, on va passer l'antenne pour autre chose. Alors, on va conclure avec vous, Florimond. Je crois que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que pour nous éviter ce genre de situation, il faut qu'on insiste, je ne sais pas, c'est que les autres ont dit, il y a confiance qui est revenue sur ça, la programmation des Pays-Bas.
Ouais, je pense qu'il faut insister là-dessus, pour que le gouvernement, d'ailleurs, les 10 millions ou les 11 millions, moi si j'étais à la place du gouvernement, dès que cette affaire a commencé, j'aurais payé ça tout de suite, pour qu'on n'en parle pas, pour que ça ne devienne pas un sujet de débat public, où la boue et la honte en question continue à se répandre sur l'ensemble du pays. On aurait pu payer ça rapidement parce qu'11 millions de dollars ne manquent pas dans ce pays. Mais là, c'est vrai. Et puis pour notre ami mon homonyme qui était tout à l'heure, il doit savoir que le gouvernement peut changer, mais il y a la continuité de l'État.
Voilà.
Et donc, il faut qu'il comprenne ça. Oui, il faut programmer. Il faut programmer, payer au fur et à mesure, rendre public cette programmation. pour qu'elle soit transparente. Et je pense que c'est la solution que nous pouvons. Mais que la dette de 11 millions, qu'on n'attende pas encore une semaine pour payer.
Voilà, Sorimo Mouteba, Chitengue, merci d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes directeur général de l'ODEF, président de l'ODEF, l'Observatoire des dépenses publiques. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Voilà, on met un terme à ce programme aujourd'hui. Donc, bonne suite des programmes sur Okapi. Nous profitons d'ailleurs pour dire également merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme aux côtés de Pierrot qui l'a réalisé. Il a mis qui vous a été présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. À très bientôt.